Service compris.
C'est quoi ça, service compris, vous qui jusqu'à présent le jeudi connaissiez uniquement les experts? Eh ben, on va dire que service compris, c'est dans la droite lignée des experts, avec des chroniqueurs que vous aurez le plaisir de réentendre. Hein. Je pense à des gens comme Vincent Biffrard, par exemple, hein, qui continuera régulièrement à nous parler des dernières nouveautés technologiques, avec des gens également comme Nicole Bardet hein, de la FRC pour les bons conseils conso, mais également quelques nouvelles voix. Et aujourd'hui, c'est une grande première, plaisir de vous présenter Lise Jean-Bourquin. Bonjour et bienvenue Lise.
Bonjour.
Pas vraiment une première pour vous sur Radio Fribourg. Vous aviez déjà fait de la radio avec Caroline il y a quelques mois, je crois. Hein.
Mais oui, c'est ça, c'était dans le cadre d'un petit bonheur.
Voilà, vous étiez venu pour quelque chose de totalement différent que le sujet du jour, le burn-out parental. Vous étiez venu parler d'une comédie musicale, je crois, à l'époque. Hein. C'était quoi exactement?
Oui, absolument. On a écrit et composé une comédie musicale avec mon mari qui avait été donné à Villa Saint-Pierre.
Ça avait bien marché?
Ça avait très bien marché.
Ça marche la promo hein, sur Radio Fribourg, vous entendez ça
hein. C'est ça, parfait.
C'est vrai que vous avez un nombre de corde à votre arc, Lise, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Avant de parler véritablement du volet psychologique, vous êtes ou vous avez été, je ne sais pas si vous l'êtes toujours, professeur de basson, solfège et initiation musicale.
Alors, c'était le cas jusqu'à il y a 2 ans, mais... D'accord. Ma nouvelle casquette de maman.
Ah oui, c'est qu'il y a ça.
J'ai
hein.
un petit peu changé d'orientation. Et puis, pour des raisons de santé, j'ai dû déposer les plaques. Donc,
ça ne vous manque
voilà.
pas trop
L'enseignement me manque, mais je me dis qu'il y a D'accord. toujours manière de transmettre des messages autrement.
Bien sûr. Ouais. Par exemple, effectivement, en tant que maman, parce que vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. Ces 3 enfants, ils sont comment? Est-ce qu'ils sont plutôt calmes, ils sont gentils, ou ça leur arrive de chahuter un petit peu?
Alors, ces 3 enfants, j'ai envie de dire qu'ils sont humains, comme ouais. on peut l'être à 7 ans et demi, 4 ans et demi et 2 ans et demi, donc il y a de grands défis au quotidien, mais aussi plein de moments super sympas.
Cette thématique que vous avez choisie aujourd'hui, Lise, celle du burn-out parental, est-ce que c'est peut-être un jour où vos enfants chahutaient un peu plus que d'habitude que l'idée vous est venue de traiter ce sujet aujourd'hui pour nos auditeurs sur Radio Fribourg?
Alors le burn-out parental, c'est vraiment un sujet que je trouve touchant, parce qu'encore très tabou.
Ouais.
C'est culpabilisant, pardon.
On a honte d'en parler.
Ouais, complètement.
Ouais. C'est pas un peu le cas pour tout ce qui touche au mental. Hein. On va plus facilement chez le médecin quand on a une entorse à la cheville que quand on est dépressif. Alors que pourtant, ça reste dans le domaine du médical, que ce soit le corps ou l'esprit. Hein.
Mais absolument. Mais à un moment donné, admettre qu'on peut être fragile.
Ouais, voilà, c'est ça.
C'est aussi s'éloigner d'un idéal de force, d'un idéal de tenir bon et puis de rester droit envers et contre tout. Et puis je pense qu'à l'heure actuelle, il est plus que nécessaire de mettre des mots sur nos émotions et de mettre des mots sur nos états d'âme aussi.
Ça concerne plus les mamans que les papas, le burn-out parental, vous avez l'impression?
Je pense que par définition, la maman est aussi un petit peu plus présente dans le foyer. On voit plus de mères au foyer que de papas au foyer, mais même si ça devient de plus en plus courant.
Heureusement que les papas aujourd'hui s'investissent de plus en plus. Hein.
C'est exactement.
Salut à tous les papas gâteaux qui nous écoutent d'ailleurs.
Mais je pense effectivement que les mamans ont une corde sensible qui vibre peut-être plus.
Peut-être. Voilà. Ah, c'est l'instinct maternel, rien ne le remplacera jamais, hein, même les meilleurs papas du monde.
Exact.
Lise Jean-Bourquin, plaisir en tout cas de vous avoir pour la première fois dans cette nouvelle émission Service Compris. Alors, je sais qu'il y a des papas, je sais qu'il y a des mamans qui nous écoutent ce matin, 1, 2, 3, 4, 5 ou peut-être même plus d'enfants, sait-on jamais. Tous ne sont pas toujours très 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 calmes. Est-ce que vous avez des fois l'impression d'être stressé? Est-ce que vous avez dû faire appel à des spécialistes? Est-ce qu'il y a des membres de votre famille, comme les grands-parents, hein, des fois qui sont d'une aide considérable? On a besoin de vos témoignages hein, pour faire une belle émission avec vous aujourd'hui. Notre WhatsApp 079 127 70 60. C'est notre nouvelle émission jusqu'à 9h. Ça s'appelle Service Compris. C'est avec Lise Jean-Bourquin. Et là, on parle burn-out parental aujourd'hui sur Radio Filter 20.
Radio FR. Service Compris.
Et ça nous emmène effectivement dans cette nouvelle émission, Service Compris. Lise Jean-Bourquin avec nous jusqu'à 9h. Hein, elle est thérapeute, spécialiste du bien-être. Lise, vous ne serez pas surprise d'apprendre que voilà, les parents commencent déjà à réagir, à vous questionner. On a Sophie qui est avec nous par WhatsApp. Sophie qui a grand besoin de pistes pour gérer un pré-ado en crise existentielle. Pauvre Sophie, qui nous dit qu'elle galère un maximum. Un pré-ado, alors déjà on est dans les 10-11 ans là, je pense, hein, au niveau définition, c'est juste.
Absolument.
Ouais. C'est un âge particulièrement difficile, vous trouvez, vous qui avez l'habitude de conseiller les familles? Moi, j'aurais plutôt vu les ados que les pré-ados, je sais pas pourquoi. Hein.
Alors c'est une question un petit peu délicate, j'ai envie de dire que chaque âge comporte ses défis, les défis à relever. Moi, je suis pas une spécialiste dans l'éducation. Par contre, ce que j'ai envie de dire, là où j'ai envie de rebondir, c'est que souvent, quand on a un enfant qui présente un changement, qui est en crise existentielle, comme elle le mentionne, c'est qu'est-ce que ça réveille en nous, finalement? Est-ce que ça nous fait peur? Est-ce que ça nous attriste? Est-ce qu'on se sent impuissant? Est-ce qu'on se sent démuni? Comment on réagit face à ça?
Ouais, là, en l'occurrence, elle nous dit « je galère un max », on sent ce sentiment d'impuissance et d'énervement en même temps hein, chez Sophie. Oui. On remercie d'ailleurs de sa confiance. Hein.
Ouais. Alors moi, ce que j'aime toujours proposer, c'est de prendre un temps pour s'arrêter et pour observer. Quelles sont vraiment les attitudes de l'enfant? À quel moment, sous quel facteur, sous quel stimuli de stress il réagit de telle ou de telle manière? Et justement de voir ensemble finalement ce qui résonne le plus juste. On peut déjà avoir une phase un peu de crise entre 9 ans et demi, 10 ans comme ça, où là il y a vraiment ce sentiment, cette prise de conscience qu'il peut y avoir des choses qui sont comment dire ça, mal, mauvaise, injuste dans le monde à l'heure actuelle. Enfin, les enfants,
surtout avec les médias électroniques. Absolument. Dont les enfants sont très friands, et ça, voilà. Ça peut des fois les mettre face à une réalité. Ils disent, mon Dieu, c'est le monde dans lequel je vis et je n'ai pas choisi d'y vivre.
Absolument. Et jusqu'à 7-8 ans, on a une forme de naïveté, une forme de tout est beau, tout est magique. On soupçonne pas qu'il puisse y avoir des injustices et puis des choses, des mensonges ou des choses comme ça. Et là, vraiment, ce que j'encourage à faire, c'est d'observer dans un premier temps comment ça résonne dans le parent. Vraiment. Comment est-ce que je peux agir en fonction des émotions que ça provoque en moi? Il faut savoir que les enfants, c'est les champions du monde pour nous pousser dans nos limites. Et puis, je pense que si un enfant est face à un parent qui est axé et centré, serein, le dialogue, il peut se faire de manière beaucoup plus profonde.
Ouais. Si on a des parents stressés, les enfants sont automatiquement stressés.
Il y a quand même généralement un effet miroir. Finalement, c'est aussi super culpabilisant parce qu'on se dit, mais finalement, on ne peut pas avoir un passage à vide sans qu'ils le ressentent. Alors, je ne suis pas en train de dire que la maman qui galère à max, comme elle le dit, est responsable de ce problème. Je ne suis surtout pas en train de dire ça. Par contre, je pense qu'il y a un sens à s'arrêter et à juste observer ce qui résonne en elle. Est-ce qu'elle a peur?
Les enfants, quand ils sentent que les parents sont stressés, est-ce qu'ils auront tendance à en profiter?
Ah, ça c'est une excellente question.
Merci.
Mais je pense pas que les enfants soient réellement différents. Par contre, c'est notre perception de leur comportement. Quand on est stressé, quand on est fatigué, quand on est fragile, tout va plus nous irriter.
Bien sûr.
Un verre qui se renverse. Un jour, on va pouvoir éclater de rire en disant « Oh là là, t'as été maladroit !» Et le jour d'après, il suffit qu'on ait passé une mauvaise nuit, qu'on ait eu une mauvaise nouvelle le matin, qu'on ait un rendez-vous chez le pédiatre de pas prévu, et le moindre verre renversé va nous faire
le contrôle qui nous échappe, et là, la tension monte. Hein.
C'est ça.
On a parlé un peu plus tôt dans l'actualité, c'était dans la presse avec Isabelle Taylor qui parlait de la pollution sonore. Vous connaissez bien la musique, vous, Lise, d'avoir justement du monde qui fait beaucoup de bruit autour de soi, d'avoir passé une mauvaise nuit parce que le train passe devant la maison, ça aussi, ce sont des facteur aggravant par rapport à ce qui pourrait déboucher sur un burn-out parental?
Alors là, clairement, j'ai l'exemple d'un papa qui clairement est insupporté par les bruits, par les cris d'enfants, par les pleurs. On a eu de mesurer à la maison, des fois ça dépasse 125 décibels.
Oh là 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 là.
Un bébé qui hurle, ça peut être très très irritant pour les oreilles.
Il a fait quoi le papa? Il a mis des pamires, le pauvre. C'est ce que vous lui avez conseillé.
Non, là je pense que l'isolement, se retirer un peu de la source.
C'est pas toujours facile. On remercie Sophie en tout cas pour la confiance qu'elle place en nous pour la première mouture de cette nouvelle émission, le burn-out parental. Lise Jean-Bourquin, thérapeute, spécialiste du bien-être, parce que c'est quand même, après tout, vous êtes d'accord, Lise, hein, le but de cette émission, on aimerait que tous ces parents stressés puissent le temps vous écouter jusqu'à 9h et qu'ils se sentent un peu plus détendus après l'émission. Hein.
Alors ça, ce serait un grand défi de le faire en si peu de temps.
Ça serait un grand défi. Eh ben, on va essayer d'y arriver.
Radio FR. Service compris. Service compris.
Toujours avec nous, Lise Jean-Bourquin, tout va toujours bien?
Mais tout va toujours bien, merci.
Écoutez, vraiment un grand plaisir de faire cette émission avec vous, et surtout, merci vraiment d'avoir choisi cette thématique du burn-out parental, qui parle à beaucoup de monde, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai testé ici en interne, alors sans pour autant que j'ai des collègues, heureusement, qui soient victimes d'un burn-out parental, tout de suite ils m'ont dit, ouais, quand même, ça à mon avis, ça a fait réagir, ils ont parlé de leurs enfants tellement adorables, mais des fois tellement bruyants, des fois tellement insupportables, et bah, aujourd'hui, on va le voir, encore quelques réactions d'auditeurs tout à l'heure, mais bon, ça me paraît important à ce moment de l'émission, Lise Jean-Bourquin, qu'est-ce que le burn-out ? Qu'est-ce que le burn-out parental, très précisément ?
Alors, dès le moment où on devient parent, on est face à des difficultés parentales, à des grands bonheurs aussi, on est
bien
d'accord.
Sûr. Plus de bonheur que de...
Alors ça, ah ouais. C'est à espérer quand même. Mais vient un moment où une suite de facteurs stressants peuvent nous pousser au burn-out parental. Le burn-out parental, c'est vraiment trois signes qu'il faut observer.
Ouais.
D'abord, on pourrait dire que c'est un épuisement physique et moral.
Les deux vont
total.
De pair.
Ouais. Donc, on est en mode survie. Zéro énergie, plus la force de sortir du lit, plus la force de répondre au « maman, maman, maman » qui ne cesse jamais. On peut avoir des trous de mémoire, donc c'est vraiment un stop que le corps et l'esprit nous imposent. Ensuite, on peut voir qu'on fonctionne par mode pilote automatique. Ça veut dire qu'on va faire ce qu'il faut pour les enfants. On va
leur faire à manger, par exemple.
On va leur faire à manger, les nourrir, les mettre en sécurité, changer leur couche. Mais on va le faire sans affect.
Ouais, on ne fera plus de câlins, par exemple.
Voilà, il y a une distanciation qui se fait parce qu'on n'arrive juste plus. Mmh. Et ça, vous pouvez imaginer que quand on a l'image d'un parent idéal, qui est véhiculé par la société, qui est véhiculé par la littérature sur la parentalité positive, sur ce qu'on connaît sur les droits de l'enfant, finalement. On a conscience de notre responsabilité en tant que parent face aux enfants. Et finalement... Le parent prend conscience à ce moment-là qu'il n'est plus du tout le parent qu'il voulait être.
Il culpabilise à ce moment-là ?
Ah mais énormément. Mmh. C'est pour ça que le sujet est tabou.
Ouais.
Ça peut même être une honte pour le parent. Alors qu'en fait, c'est un mécanisme de succession de facteurs de stress qui font qu'à un moment donné, le corps y déclare forfait.
Ouais. Bah, c'est bien que vous évoquiez la culpabilité, hein, parce que justement, ce message d'une maman qui préfère rester anonyme, hein, comme on la comprend, on va lui donner un prénom d'emprunt, on va l'appeler Coralie, tiens, pourquoi pas. Merci beaucoup de mettre ce sujet tabou sur la table. Pas facile d'être en burn-out parental. Je viens de séjourner 4 semaines à Marsens et je fais encore un suivi ambulatoire à Bulle tous les jours. Typique de cas d'une maman qui est en burn-out parental. Hein.
Alors, complètement. Là, on est vraiment dans cet épuisement total, qui ne dépend pas de notre volonté, évidemment.
Bien sûr. Hein.
Donc, voilà.
Ça peut déboucher sur une dépression, le burn-out
parental. Alors, sur le long terme, oui, bien sûr.
Est-ce qu'on peut faire une différence ? Plutôt, je posais la question différemment. Est-ce que un burn-out professionnel, parce qu'on parle presque plus souvent, peut-être qu'on ose plus parler de burn-out professionnel que burn-out parental, est-ce qu'un burn-out professionnel peut déboucher sur un burn-out parental et vice-versa ?
C'est une excellente question. Alors, j'ai envie de dire que quand on est en burn-out professionnel, les facteurs de stress sont au travail. Alors, c'est sûr que quand on rentre à la maison, on peut avoir toujours des cogitations liées au travail.
On est fragilisé parce qu'on arrive avec ce stress à la maison. Hein.
Voilà. Ouais. Donc là, ça peut nous rendre plus vulnérables face au stress qu'on peut rencontrer à la maison avec des enfants. Mais par contre, le burn-out parental... j'ai envie de dire que quand on est en burn-out professionnel, si on va voir son médecin, on peut avoir un arrêt de travail.
Ouais, c'est vrai.
Qui nous coupe à 100% de notre travail pendant le temps de se requinquer, j'ai envie de dire, de se ressourcer, de remplir ses batteries. Mm-hmm. Mais dans le cas du burn-out parental,
c'est plus difficile,
on est parent 24 heures sur 24 dès le moment où l'enfant est en cours de route pour vivre.
J'imagine qu'on culpabilise beaucoup plus quand on fait un burn-out parental, se dire « Mon Dieu, je dois laisser mes enfants pour entrer en clinique », alors que bon, je sais qu'il y a des gens qui ont une grande conscience professionnelle, mais peut-être qu'on a un peu moins de scrupules à lâcher son boulot l'espace de quelques semaines, voire quelques mois. Hein.
Mais complètement, parce qu'on a toujours en tête l'impact que ça peut avoir pour nos enfants. Quand on tombe en burn-out parental, c'est généralement qu'on a une vision du parent idéal qui est inaccessible. Donc on va... Juste avant de tomber dans le burn-out, on a une phase de surinvestissement qui est totale.
On place la barre beaucoup trop haut.
On place la barre extrêmement haut. On va tout faire en fonction de notre image idéale. Faut aussi dire que sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur nos profils WhatsApp, etc., on n'a jamais vu quelqu'un mettre en photo de profil une famille au saut du lit avec la gastro généralisée qui n'a dormi que 2 heures durant la nuit.
On verra ça jamais dans les pubs non plus.
Voilà.
Hein.
On a toujours l'image de la maman qui change la couche de son bébé dans Bien les sûr. Pubs avec un sourire rayonnant. Et à un moment donné où on en change 12 par jour, voilà, on atteint aussi nos limites et c'est normal. Par contre, cette vision du parent idéal, à un moment donné, on va tout faire pour l'atteindre. Puis après, on a une sorte de frustration parce qu'on se rend compte qu'on n'y arrive pas. Et puis à ce moment-là, au moment du surinvestissement, le parent n'est plus du tout à l'écoute de ses propres besoins. Il faut dire que quand on est dans l'avion puis qu'on a les masques à oxygène qui tombent, la consigne c'est d'abord de mettre le sien, puis de le mettre à l'enfant. Pourquoi ? parce qu'un parent qui ne peut pas respirer ne peut pas aider son enfant.
C'est très très belle image, image très marquante là que vous nous donnez là, Lise Jean-Bourquin, thérapeute. Vous parliez de l'image du parent idéal. C'est très difficile d'être parfait, mais j'ai surtout l'impression que l'image du parent idéal a bien changé en quelques décennies. Avant, c'était le parent autoritaire. Et aujourd'hui, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'on essaie plus facilement d'être un parent copain avec ses enfants. On se remet plus facilement en question. Alors, avec ça, est-ce que le risque de burn-out parental n'est pas en train de devenir de plus en plus fréquent ?
Alors, c'est très intéressant. J'ai envie de dire qu'en 1989, il y a les droits de l'enfant qui ont été rédigés. Et dès lors, on a eu une prise de conscience de notre responsabilité en tant que parents. Et il y a eu le véritable mode d'emploi du parent positif, du parent bienveillant, empathique, patient, tout le temps, qui a été véhiculé par la littérature, par des philosophes, par des psychologues tels que Filioza, Ducharme et compagnie, qui véhiculent pas l'image d'un parent copain, parce qu'on est quand même dans un esprit de discipline positive. Donc je pense que le cadre, il est évident. Le cadre à donner est évident pour tous les psychologues. Par contre, ben, on se pose véritablement plus de questions. Je pense qu'il y a 50 ans en arrière, on attendait que l'enfant soit autonome. Et maintenant, on se rend compte qu'on a un véritable rôle à jouer pour que l'enfant acquiert son autonomie, aussi au niveau psychologique, physique, etc.
Lise Jean-Bourquin, merci. J'étais en train de me demander... bon, je crois qu'on va écouter un petit peu de musique là, parce qu'il y a des WhatsApp qui sont en train d'arriver. On va décrypter un petit peu tout ça. Et je pense qu'on aura encore pas mal de réactions hein, très intéressantes. Peut-être des questions également de nos auditeurs et auditrices. Parce que pour l'instant, c'est plus des mamans que des papas qui ont réagi. Hein. Les papas, ne soyez pas timides. Vous êtes aussi les bienvenus. Et comme on l'a dit, il n'y a pas du tout de mal à se sentir de temps en temps démuni face à une situation. Il n'y a pas de mal de dire aujourd'hui, je ne me sens pas capable de faire quelque chose. Nous sommes, après tout, tous des êtres humains.
Service compris.
Première émission de cette nouvelle grille de la rentrée, un service compris que j'ai grand plaisir à faire avec vous. Lise Jean-Bourquin, tout va toujours bien ?
Mais tout va bien.
La musique calme, comme ça qu'on joue sur Radio Fribourg, vous êtes d'accord ? Ça apaise quand même. Hein.
Mais c'est juste parfait.
Beaucoup de monde est avec nous par WhatsApp ce matin, 079 127 70 60. Alors un message très 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 court, il est signé Dodo. Ça, c'est le phénomène des enfants rois, le plus gros souci. Donc si j'ai bien décrypté le message de Dodo, c'est que si les parents sont en situation de burn-out parental, c'est parce que nous avons des enfants rois. Vous me regardez d'un air perplexe, Lise Jean-Bourquin, quand je vous lis le message
de Dodo. J'aime bien ces messages un peu provocateurs comme ça. J'ai envie de dire que, est-ce que c'est vraiment le stimulus de stress ou notre perception, de lui ? J'ai envie de dire, quelle est notre façon de réagir face à un enfant roi ? Est-ce qu'on se laisse submerger ? Est-ce qu'on reste centré ? Est-ce qu'on est serein ? Est-ce qu'on a peur ? Est-ce qu'on a l'impression de perdre le contrôle ? Est-ce que ça nous attriste ? Qu'est-ce que ça fait, finalement ?
Parce que l'enfant roi, déjà, il faut qu'on l'ait mis dans cette condition-là. C'est que l'enfant roi, c'est la définition. Les parents lui passent tout, en fait. Hein. Donc forcément, pour qu'on se retrouve dans la situation de l'enfant roi, c'est qu'il y a eu des parents, au départ, qui ont décidé qu'ils allaient faire une éducation dans ce sens. Ou est-ce que c'est un peu simpliste ce que je dis là ?
Je ne sais pas si c'est simpliste. Je n'ai pas tellement envie de m'aventurer sur le terrain de l'éducation parce que, en tant que maman, je me rends compte qu'aussi, des fois, on fait comme on peut.
Ah oui ?
Ouais. Et puis, nulle est l'intention de juger, de porter un jugement sur la façon de faire des parents. Par contre, je pense que notre relation de bien-être, notre sentiment d'être centré par rapport à notre enfant, ne dépend pas de l'enfant lui-même, mais dépend de nous. Et notre balance, finalement, entre nos besoins. Est-ce qu'on a assez de carburant, finalement, pour faire face à tout ce qui nous arrive ? Ou est-ce qu'on est en panne sèche ?
Voilà. C'est justement cette balance qui est très importante, qui va causer ou non la situation de burn-out parental.
Voilà.
Est-ce que nos enfants, quand on arrive à la maison après une longue journée de travail, est-ce qu'ils vont, par leur câlin, par leur sourire, nous apporter plus de réconfort que le stress qui peut engendrer de, je sais pas, leur résultat scolaire, leur cri, tout ça ?
Alors ça, c'est le grand leurre, c'est de croire qu'on peut remplir son réservoir de carburant de l'extérieur.
Ah, c'est pas si facile que ça.
Non.
Je ne ferai pas un bon papa, je crois.
Hein. Non, mais je crois que plus on a d'attentes envers ce qui arrive de l'extérieur, plus on a de risque d'être déçu, non ?
C'est pas faux.
Voilà, si on place la barre très haut et en plus.
Alors, on en a une fois plus à la barre qu'on place très haut, voilà, c'est ça.
Ou alors, il faut la placer carrément haut pour pouvoir passer dessous. Voilà.
J'aime beaucoup vos métaphores.
Sans avoir besoin de sauter tellement haut pour atteindre notre objectif. Non, mais je crois réellement quand on a des attentes que l'autre, l'enfant ou des amis ou je ne sais pas qui d'autre, notre conjoint, remplissent notre réservoir de carburant à notre place, là je pense qu'on fait déjà fausse route. Parce qu'à un moment donné, on est les seuls capitaines à bord. On est les seuls capitaines de notre être. Et puis, à ce moment-là, c'est à nous de choisir comment on peut remplir notre réservoir. J'aime bien prendre l'image de la balance. On a une balance entre nos besoins et nos ressources, j'ai envie de dire. Donc, on a des besoins physiques, tels que manger, dormir.
Voilà.
Donc, voilà, clairement,
quand on a... Besoin de base de l'être humain.
Voilà, quand on a un nourrisson à la maison, dormir, ça devient assez relatif, par exemple. Donc là, on a déjà notre côté de la balance, qui est les besoins des ressources, qui est vraiment déjà un tout petit peu fragilisé. Ouais. Et de l'autre côté, on a tous les événements stressants qui peuvent arriver, qui vont déséquilibrer, plus ou moins longtemps, la balance des facteurs, enfin, la balance de notre bien-être. Et à l'image d'une voiture, on va s'arrêter pour faire le plein, on va pouvoir faire un certain nombre de kilomètres, après on aura un signal d'alarme qu'on arrive sur la réserve.
L'autonomie de la voiture.
Voilà. Et ensuite, on va arriver en panne sèche. Si on prend le burn-out, peut être, comment dire ça, comparé à la panne sèche de notre voiture. Finalement, qu'est-ce qui nous permet de faire le plein ? Alors manger, dormir, certes, mais quoi encore ? Quels sont mes besoins ?
Je vous la pose, cette question.
Alors,
quels sont les besoins du parent à ce moment-là ?
Mais c'est propre à chaque parent. Parce que pour certains parents, remplir son réservoir, ça équivaut à se faire un week-end dans un centre thermal tous les 6 mois. Pour d'autres, ce sera de faire un quart d'heure de yoga par jour.
Pour certains papas, ça va aller taper dans un punching ball, par
exactement.
Exemple.
Exactement. Voilà, c'est de trouver le moyen de remplir son réservoir. Et pour la personne qui est en burn-out, c'est vraiment de faire stop. Maintenant, j'arrête ma voiture et je fais le plein. Parce que le grand leurre du parent épuisé, c'est de vouloir essayer de faire le plein en roulant.
Ah oui. Le ravitaillement en route, ça ne marche pas.
Non. Il faut s'arrêter.
S'arrêter. Oser. Voilà. Oser s'arrêter.
Et après, vraiment prendre conscience de ses besoins, apprendre à se connaître, apprendre à reconnaître les signaux. Quand est-ce que mon petit signal lumineux de la réserve arrive, finalement ? Et qu'est-ce que je fais pour remplir mon réservoir ? Est-ce que je me prends une heure de temps pour moi ? Est-ce que je demande ce qu'on garde les enfants pendant 2 heures ? Est-ce que j'apprends à déléguer ?
C'est très parlant, vos exemples. J'aime beaucoup Lise Jean-Bourquin. On va encore prendre un témoignage. C'est celui de Christiane. Très intéressante cette émission. Bravo à vous, en tout cas, Lise. On a des réactions positives avec ce que vous nous dites. J'ai une fille de 4 ans. Elle est très difficile en ce moment. Elle a toujours eu beaucoup de caractère, mais ces derniers temps, c'est encore plus difficile. Crise répétée que pour des petites choses. On prend le temps de la laisser se calmer. On lui explique qu'elle peut s'exprimer avec des mots plutôt qu'avec des crises. Mais parfois, je désespère d'arriver à une accalmie. Alors, le désespoir, l'énervement quand même chez Christiane, là, qui vient de nous écrire au 079 127 70 60, notre WhatsApp.
Je trouve très touchant ce message parce qu'on voit que c'est une maman qui est à l'écoute, des émotions de son enfant, qui laisse la crise passer pour expliquer ensuite, parce qu'on n'arrête pas un TGV là, alors qu'il est lancé. Un enfant en crise, c'est costaud.
Ah ouais, des fois, on voit ça dans les magasins.
C'est un défi. Voilà,
au
le
rayon
jugement.
Bonbon.
Le jugement de la société. Ça, c'est encore un autre chapitre. Le jugement des autres, des enseignants, etc. Mais j'ai envie de dire, pour cette maman, c'est d'apprendre déjà à elle. J'aime toujours l'image de la boule à neige. La boule à neige qu'on secoue dans tous les sens, qu'on choisit de poser tranquillement sur une table, et on attend que toute la neige aille se poser au fond.
Ça prend du temps
avant
parfois.
Avant de réagir. Ah, mais quand on est en colère, ça prend un temps fou. Mais c'est normal.
Ouais.
C'est normal.
C'est humain. C'est
voilà.
Humain,
Et pour l'enfant, c'est pareil. Alors, premier défi, c'est construire une boule à neige avec des paillettes. Voilà. Ça, j'aime bien faire ça avec les enfants parce que ça leur permet vraiment de choisir.
Vous le faites concrètement avec eux, alors ?
Après ma première séance de psychokinésiologie que j'ai fait moi en tant que maman, c'est le premier bricolage que j'ai fait avec mes enfants. C'est de choisir de déposer la neige pour attendre que ça se dépose. C'est de choisir le calme, de choisir de rester tranquille. Et quand maman choisit de rester tranquille, bah souvent c'est très inspirant.
Lise Jean-Bourquin, je vous écouterai parler pendant des heures. On va rappeler que vous êtes thérapeute, un spécialiste du bien-être. Juste peut-être quelques mots sur cette formation en psychokinésiologie dont vous êtes titulaire. La psychokinésiologie, c'est quoi en quelques mots ?
Alors là, c'est impressionnant parce que j'ai l'émotion qui monte en parlant parce que je suis clairement plus la même maman depuis que j'ai découvert la psychokinésiologie.
Ah, il y a peut-être des mamans que ça va intéresser.
Alors, il y a plein de séminaires, j'espère avoir le temps d'en parler tout à l'heure. mais c'est un art de vivre. Un art de vivre qui nous permet justement de devenir capitaine de son propre navire et de choisir.
D'accord.
De rester calme, de choisir, d'avoir des outils finalement au quotidien qui nous permettent de rester centrés et finalement d'être là, toujours avec la même atmosphère intérieure qui est le calme ou la tempête finalement.
Vous avez des ateliers à conseiller
à
les mamans
tout
et tous les papas qui
mais
nous
bien
écoutent
sûr. Hein. Alors déjà, trois conférences, donc même sujet, une conférence qui est donnée trois fois les 8, 9, 10 octobre, qui s'appelle « Les enfants, trois petits points, si j'avais su ».
Ça veut dire beaucoup de choses ce titre. Hein.
Voilà, exactement, qui est donné par deux mamans riches d'expérience et psychokinésiologues qui vont vraiment inciter tous les parents à redevenir capitaine de leur propre navire. Mmh. Ensuite, un séminaire de 4 jours du 28 novembre au 1er décembre qui s'appelle « Comprendre l'enfant d'aujourd'hui », mais aussi comprendre quelles blessures de nous en tant que parents, programment nos réactions à l'heure actuelle, et puis justement un cocktail infini d'astuces. Et aussi, ça c'est aussi très intéressant, c'est un mardi soir par mois d'octobre à avril qui s'appelle « Maman épanouie ». C'est un atelier qui est de 2 heures de temps à Visternan-Sonogo.
Génial.
Ce qui est donné par moi-même, justement.
D'accord. Vous avez une adresse internet où on peut retrouver tous ces rendez-vous.
Oui, alors www.psychokinésiologie.ch ou sur mon site internet www.lisejeanbourquin.ch.
Voilà, très facile à retenir. On va terminer par ce mot de Valérie. Magnifique émission, prendre du temps pour soi et chacun à sa manière, c'est une des clés pour nous, pour que ça fonctionne. Mon mari part à vélo et moi pour un bon petit concert. Merci à vous, Lise Jeanbourquin, nous dit Valérie. Moi, je vous dis merci également.
Merci mille fois
au nom
aussi.
De toutes les auditrices et de tous les auditeurs de Radio France.